Chapitre 26. Ne méritez personne. L'être humain est probablement le seul animal à être capable de se faire du mal par la simple pensée. Jocelyne en est la preuve vivante. Elle se tient debout dans sa chambre à coucher. Seule la petite lampe de chevet est allumée. De style ancien, l'abat-jour sombre diffuse une lumière blafarde. Elle n'a rien avalé ce soir, parce qu'elle n'a toujours pas digéré la lettre de ce matin. Elle qui pensait que cette jeune étudiante avait cessé toute correspondance et se croyait débarrassée de cette rage sourde qui lui saisit le ventre à chaque nouveau courrier. Le retour d'une enveloppe après 3 semaines de silence n'en est que plus désagréable et la joie affichée du procureur insoutenable. Jocelyne fait face à sa psyché, celle qu'elle a héritée de sa grand-mère, peut-être la seule personne qui portait sur elle un regard bienveillant. Un beau miroir sur un pied en bois, un peu piqué par endroits. Petite, elle rejouait la scène de Blanche-Neige. « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. » Ce n'était jamais elle. Elle s'oblige à se regarder dans les yeux. Elle observe ses cheveux attachés en chignon, bien serrés. Ce matin encore, elle a enfoncé les pinces avec une telle vigueur dans sa chevelure que la douleur a persisté une bonne heure. Mais elle ne supporte pas l'idée qu'une mèche puisse tomber, qu'on puisse avoir d'elle l'image d'une femme négligée. Ses mains explorent l'arrière de sa tête et retirent un à un chaque petit morceau de métal coudé. Avec le temps, ils ont perdu leur embout en plastique qui les faisait glisser facilement. La douleur n'en est que plus vive chaque jour, au moment de les attacher. 27. 27 pinces à cheveux qu'elle rêverait de voir retirer par un homme, doucement, pour prolonger longtemps la promesse du désir. Ses cheveux tombent maintenant sur ses épaules. Ni lisse, ni bouclée. Un mi-chemin difficile à coiffer. Elle a toujours été à mi-chemin dans tout, Jocelyne. Dans son physique et dans son caractère. Un mi-chemin qui vous condamne à l'errance d'avoir pris un départ sans idée de l'arrivée. Elle commence à déboutonner son cardigan gris. Celui qui s'écarte un peu entre chaque bouton, au niveau de sa poitrine trop généreuse, et qui, dans le dos, marque la présence du soutien-gorge et fait ressortir les bourrelets. Elle le laisse glisser au sol. Sa finette en coton blanc, relevée de dentelle à l'encolure et aux manches, laisse apparaître le soutien-gorge couleur chair. Elle n'a jamais aimé afficher de la fantaisie dans ses sous-vêtements. Qui lui aurait transmis ce plaisir-là? Celui de savoir que ses parties intimes, objets théoriques de plaisir, reposent dans un écrin affriolant qui donnera envie à un homme qui le découvre de s'y attarder un instant pour mieux savourer ce qu'il cache. Elle n'a jamais appris l'idée d'être affriolante. Peut-être même lui a-t-on enseigné le contraire. Ni négligée, ni affriolante. Sa finette rejoint le cardigan qui gît à ses pieds, sans un bruit. À peine celui d'un chat qui frôle le parquet. Puis elle dégrafe la tache dans son dos. Les parties métalliques du soutien-gorge claquent en heurtant le sol. Elle sursaute presque. À moins que ce ne soit la vision de ses seins. Il serait beau d'être généreux s'il n'était tombant. Et puis, ses mamelons plats, d'une couleur rosâtre qui ne donne pas envie de les saisir, ni d'une main, ni d'une bouche, tant ils semblent éteints. Elle approche ses mains et commence à frôler ses tétons, de sorte de les faire pointer et ressortir. Il y faut le temps, mais ils finissent par donner un peu de contenance à cette poitrine épaisse, qui s'excuserait presque d'être aussi inutile. Elle sait que dès qu'elle abandonnera leur stimulation, ils redeviendront plats, et tristes, et sans motivation. Quelle est leur légitimité si personne ne les aime? Sa main droite descend vers son ventre charnu et le saisit, pour s'infliger d'en affronter la mollesse. Un ventre qui ressort, quelle que soit la tenue. Sa mère mettait des gaines. Peut-être serait-ce la solution? La tricherie a parfois du bon? Elle ouvre la fermeture éclair de sa jupe et la laisse glisser le long de ses bas, qu'elle enlève ensuite rapidement, les abandonnant au milieu d'un chaos de vêtements, gisant là comme s'ils avaient fui un corps qu'ils ne supportent pas. Reste sa culotte en coton, celle que personne n'arrache ou n'ôte même délicatement. Une culotte trop petite, qu'elle n'a pas pris la peine d'adapter aux quelques kilos qu'elle a accumulés ces derniers mois. Ainsi ressortent les hanches et les cuisses et le ventre. Elle se sent comme un arbre dont l'écorce déborde autour d'un écriteau et le mange, le digère, le recouvre de sa chair. petite culotte au sol. Sa toison longue la nargue qui envahit le haut des cuisses. Un sexe enfoui, caché, comme une entrée de grotte derrière un rideau de verdure. Peut-être un entrelac de ronces. Une seule fois, un homme a osé y pénétrer pour y faire sa petite affaire sans vraiment prendre soin de l'endroit. Ils avaient 17 ans. Ils étaient gauches et pas vraiment amoureux. C'était plus par principe. L'avoir fait. Depuis, la verdure a prospéré comme pour en protéger l'accès. La même main qui malaxait le ventre est descendue plus bas, s'arrêtant à l'endroit où le bassin se fend en deux cuisses épaisses. Elle n'a jamais osé ni explorer, ni même regarder, encore moins caresser. La peur de se connaître, peut-être. Ou celle de se sentir obligée ensuite d'en faire quelque chose. Il n'y a guère qu'un médecin qui a pu observer, cliniquement, froidement, son anatomie féminine, sans beaucoup de douceur, il y a déjà longtemps. Trop longtemps, peut-être. Mais Jocelyne se dit qu'elle n'a rien à surveiller. On n'entretient pas les friches. Elle reste ainsi quelques instants à regarder ce corps que lui crache le miroir sans autre précaution qu'une lumière jaunâtre. Regarde-toi. Tu ne mérites personne. Mais elle se ressaisit, enfile une chemise de nuit et s'allonge dans son lit en coupant la lumière. Les yeux grands ouverts sur le plafond noir, elle cherche ce qu'elle doit faire pour arrêter tout ça. Pour bien se faire entendre sur ce qu'une femme a le droit de faire et ce qu'elle ne doit pas. Distraire un procureur avec des lettres enflammées en l'occurrence. Elle devra agir seule, une fois de plus. Mais elle y arrivera. Jocelyne sait à ce moment précis qu'il faudra frapper fort pour être efficace.